Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas. » Car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. De quel salut parlons-nous? De quel salut avons-nous besoin aujourd'hui? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous pensons évidemment aux Ukrainiens en ce moment. Ils ont besoin de la paix, ils ont besoin d'être libérés de cette invasion russe. Mais nous pouvons également penser à telle ou telle maladie. Il y a certainement parmi nous des gens qui se battent contre une maladie secrète, peut-être depuis des mois, des années. Ils voudraient bien aussi être sauvés. Il y a deux formes de mal qui ont le dessus sur nous. La première forme, c'est celle que nous raconte la longue histoire des croyants et en particulier à travers le peuple hébreu. Nous avons entendu dans la première lecture la démarche d'un croyant qui vient présenter les prémices de ses récoltes pour les jeunes et les enfants. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, les prémices, c'est les premières récoltes, les premiers fruits. Ils viennent présenter les prémices de leur récolte à Dieu. Et là, ils se souviennent de quoi? De la libération que Dieu a opérée pour son peuple, Israël. Dieu l'a délivré de la main des Égyptiens, de l'esclavage. Et non seulement il les a libérés de ce joug, mais encore, il leur a fait passer la mer Rouge. Il leur a fait passer le désert pendant 40 ans. Il les a nourris au désert, non seulement de pain, mais de sa parole. et puis il les a fait atteindre la terre promise. Nous n'oublions pas que pour Israël, ce qui compte, c'est un Dieu, une terre. Et un peu plus tard, ils demanderont un roi. Le salut que Dieu accorde, il est de cet ordre. Le salut pour son peuple, le salut pour l'humanité. Être libéré de tous les jougs qui nous assaillent. Être libéré de l'injustice. Être libéré pour être totalement à nous-mêmes et pour être totalement aux autres et rendre gloire à Dieu. Oui, nous prions pour tous les esclavages. Il n'y a pas que les Ukrainiens. Il y a aussi d'autres guerres dont l'actualité parle moins. Et puis, il y a tous ceux qui se battent secrètement contre un échec professionnel, affectif, contre une maladie. Si vous en êtes, soyez sûrs que nous sommes à vos côtés. La libération du peuple d'Israël est intervenue comme un signe pour que nous trouvions espérance dans notre foi en Dieu. Vous avez entendu à la fin du psaume, d'abord nous avons chanté le refrain « Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve » et nous avons entendu la réponse de Dieu à la fin du psaume « Je suis avec lui dans son épreuve ». Nous ne pouvons pas limiter l'action de Dieu. Peut-être interviendra-t-il d'une manière ou d'une autre pour libérer le peuple ukrainien. Nous ne savons pas et nous ne pouvons pas limiter l'action de Dieu. C'est à lui que cela appartient. Mais nous sommes sûrs, et les croyants orthodoxes, catholiques ou d'une autre confession d'Ukraine savent, comme en Russie d'ailleurs, que Dieu est avec eux pour leur permettre de traverser l'épreuve. Je suis avec lui dans son épreuve. Le Christ lui-même, dans l'épreuve qu'il traverse, sait que son Père est là, que l'Esprit Saint l'accompagne. Le salut que nous attendons de Dieu, il est d'être libéré. Il est de trouver paix et justice, amour et vérité, fraternité, solidarité. Mais cela se réalisera aussi par nos mains. Si Dieu est avec nous, ce n'est pas seulement pour traverser l'épreuve, nous qui la subissons, mais c'est également pour des frères et des sœurs se lèvent et agissent au nom de Dieu pour leurs frères et sœurs. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous avons à nous mobiliser pour que toute forme d'injustice soit réduite, pour que dans nos relations, nous soyons respectueux de tous. Voilà le premier mal qui nous atteint, ce mal extérieur, dont nous ne sommes pour rien. Mais il y a une deuxième forme de mal. C'est ce mal qui surgit en nous, on ne sait comment, et qui nous tente, et qui, quelquefois, arrive à ses fins en faisant de nous des complices. C'est ce mal-là dont l'Évangile nous parle à travers les tentations. Le diable, ce mot d'origine grecque, veut dire celui qui divise, le diviseur. Le diable est là pour introduire en nous une division, introduire dans le monde une division, introduire entre nous une division. Et là, comme le dit la fin de l'Évangile, toutes les formes de tentation, nous avons là trois formes. La première, l'avoir. La deuxième, le pouvoir. La troisième, le valoir. L'avoir. Nous sommes dans une société de consommation. Nous n'avons jamais assez. Et si à un moment nous nous disons tout le nécessaire est là, la société vient toquer à notre porte pour nous dire « Mais il vous manque encore cela. Mais le produit que vous avez n'est pas des plus performants. » Nous sommes tentés par les vitrines, par les publicités, et peut-être même entre nous, nous nous tentons les uns les autres parce que la jalousie s'immisce. Nous n'avons pas ce que le voisin a. Nous voudrions plus. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Vous entendez cette petite voix lancinante dans votre oreille ou dans votre cœur qui vous dit « Mais tu pourrais avoir cela encore. » C'est au détriment de l'essentiel dans nos vies. Nous sommes accaparés par des objets, par un confort, par une sécurité, et nous donnons du temps à cela au détriment de nos proches, de nos amis, des nouvelles qu'il faudrait prendre de tel ou tel. Le temps que nous passons à acquérir. Et c'est au détriment aussi du partage que nous pourrions vivre si nous avions un peu plus d'argent, un peu plus de moyens pour donner à l'autre de quoi vivre mieux. Cette tentation de l'avoir, regardons-la en face, essayons de discerner dans notre vie où elle se trouve. Ne croyez pas que vous en êtes exempt. La tentation du pouvoir. Il n'est pas nécessaire d'être président de la République ou d'être président d'une association pour être dans cette tentation. Elle peut commencer au sein du couple. Qui a le pouvoir sur l'autre ? Elle peut commencer au sein de la famille. Il y en a un qui parle plus facilement en oubliant que celui qui ne dit rien ne trouve pas forcément sa place. La tentation du pouvoir, elle est partout. Vous le savez, dans la foi chrétienne, l'Église ne cesse de dire « Le pouvoir est à exercer comme un service. » Nous avons reçu une autorité, mais c'est pour servir. Mais combien de fois voulons-nous convaincre l'autre en exerçant sur lui un pouvoir ? Parce que, bien sûr, nous avons raison. Combien de fois nous prenons l'autorité qui nous a été remise comme la manière de faire sentir que, quand même, nous avons raison. C'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Le service, le Christ nous le montre à travers le lavement des pieds, mais pas seulement, à travers sa manière d'être auprès des autres. Lui, le Seigneur, devenu homme, il s'abaisse, comme dit l'hymne aux Philippiens, pour ressembler aux pécheurs que nous sommes et pour, dans cette ressemblance, vaincre le péché. Le pouvoir, nous courons après, d'une manière ou d'une autre. Nous courons après pour dominer sur les autres, pour faire entendre notre voix. Là encore, ne croyez pas que vous en êtes exempt. Le diable sait s'insinuer dans nos relations, il prend place dans notre cœur pour nous faire miroiter des choses. Car ce n'est qu'illusion. Vous avez entendu, je te donnerai tout ce pouvoir, la gloire de ces royaumes, cela m'a été remis. Croyez-vous que Dieu ait remis ce pouvoir au diable ? Non. Ceux qui remettent du pouvoir au diable, ce sont nous autres. C'est à nous que ce monde a été confié à la création pour que nous gardions cet univers, pour que nous le rendions fécond, pour qu'il s'épanouisse. Mais bien souvent, nous nous sommes laissés tenter par cet être abject qui nous fait croire des choses. Et la première chose qu'il nous fait croire, c'est que lui peut. Il n'aurait aucun pouvoir si nous ne lui donnions de temps en temps. Essayons de dénoncer les illusions de celui qui nous tente. Le vrai pouvoir est entre les mains de Dieu, la vraie autorité est entre les mains de Dieu seul. Mais il nous confie des responsabilités, il nous faut tenir notre place. Et enfin, la troisième tentation est celle du valoir. Qu'est-ce que je vaux à tes yeux ? Qu'est-ce que je vaux à tes yeux, Seigneur ? Mais jette-toi en bas ! Il a donné mission à ses anges de te garder. Finalement, nous allons soumettre l'amour de Dieu à l'épreuve. Mais cela ne vaut pas seulement pour Dieu. Cela vaut pour nos relations entre nous. Quand dans un couple, il n'y a pas suffisamment de signes de reconnaissance, de signes d'amour, la tentation est forte d'aller voir ailleurs. Puisque je ne vaux plus rien. Dieu sauve vos couples. Jésus sauve vos couples. Parce que même si tout va bien, vous entrez dans une monotonie et il est difficile de dire à l'autre qu'il est le bien-aimé. Quelle est la bien-aimée ? Qu'est-ce que je vaux à tes yeux ? Si cela n'est pas clair, il y a des risques que nous entraînions l'autre dans des tentations pires que l'amour qui s'oublie. La tentation du valoir. Cela commence dès l'enfance. L'enfant qui essaie de dominer ses parents en disant qu'il est là. Et cela se poursuit jusqu'à notre mort. Parce que nous doutons toujours de l'amour de l'autre. Parce que nous doutons toujours de l'amour de Dieu. Souvenons-nous de ce que dit le Christ en croix. Entre tes mains, je remets mon esprit. Le Christ est seul à mourir, comme chacun de nous sera seul à mourir. Mais dans la foi, il reconnaît que son Père est là, à ses côtés, et l'aime. Notre Dieu ne nous épargne pas les épreuves, il nous les fait traverser. En ce moment, ce sont les Jeux paralympiques. Regardons ces athlètes. Combien d'épreuves n'ont-ils pas traversées pour atteindre la performance qu'ils sont en train de donner ? Que nous ayons aussi cette ambition avec Dieu de vaincre le mal, de vaincre nos tentations, notre péché, pour les dépasser. Ce matin, nous rendons grâce parce que la victoire du Christ sur les tentations est notre victoire, comme dit saint Augustin. Les tentations du Christ sont nos tentations. Nous le regardons en ce début de carême, et même si nous sommes tentés de croire que nous sommes toujours dans les mêmes péchés, que nous n'en sortirons jamais, écoutons cette voix du Christ qui nous dit que c'est possible, que nous pouvons être vainqueurs parce que lui l'a été et qu'il nous montre le chemin. Le chemin, c'est d'opposer au tentateur la parole de Dieu. C'est d'opposer au tentateur notre fidélité à Dieu dans la prière. Bien sûr que seuls, nous ne pouvons rien contre lui, mais avec le Christ, nous sommes dans sa victoire. Amen.